9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média, même un vendredi 13. Surtout un vendredi 13, ça porte bonheur au menu. Média et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture, dont la gastronomie, je le rappelle ici avec plaisir. La cuisine française est inscrite, la gastronomie française est inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Et justement, notre invité culture en deuxième heure sera le chef triplement étoilé Guy Savoy, dont le restaurant La Monnaie de Paris a été désigné pour la 4e année consécutive comme la meilleure table du monde. Comment vit-il le confinement ? Bien, il met en place le click and collect dans certains de ses restaurants et il a rencontré hier le ministre de l'économie pour lui dire quoi ? On va lui demander. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino et une visite bien à lui de ses trois plats emblématiques par Laurent Mariotte. Et si la parodie pouvait nous sauver de la morosité, c'est le credo des gens du Gorafi qui s'amusent à inventer de fausses nouvelles, parfois fausses, parfois moins fausses que les vraies, et un site qui parodie Brut, ça s'appelle Brut. Ils seront avec nous, les garnements. Enfin, dans la partie média, Sandrine Domiguez, spécialiste et amoureuse de la déco, qui se lance dans La Quête du Beau, son nouveau documentaire sur Teva. Nous serons également avec Catherine Schoeffer, qui dirige la chaîne. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles.
Les coulisses du gros scoop de Voici, le documentaire qui a envahi les réseaux sociaux, la nouvelle ambition de Donald Trump, l'opéra via Facebook et deux nouveaux magazines télé.
Rien que ça. Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
TF1 s'est hissé largement en tête avec le retour de Balthazar, sa série avec Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles. Les deux premiers épisodes de la saison 3 ont fédéré 6 600 000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 30%. C'est mieux que la moyenne de la saison 2. TF1 est aussi largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. C'est deux fois plus qu'Alice Nevers dans la case la semaine dernière. Derrière, aucune chaîne ne passe les 2 millions de téléspectateurs. C'est France 2 y est quasiment avec un nouveau numéro d'envoyé spécial pour une part d'audience de 8,5%. France 3 pointe à 1 900 000 avec le film The Revenant, soit 9,2% du public. Et M6 affiche 1 700 000 téléspectateurs au compteur avec la série 911 Lone Star. Après son lancement timide la semaine dernière, elle perd plus de 400 000 personnes en deuxième semaine et 2 points de part d'audience.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la une de Voici sur François Hollande.
Le magazine People l'a annoncé hier, photo à l'appui, l'ancien président de la République aurait craqué pour une danseuse de l'Opéra de Paris. Voici assure que le couple se fréquente depuis le mois de septembre. Le magazine les a suivis et photographiés au Bois de Boulogne et il assure que le couple se retrouve régulièrement dans un appartement prêté par un ami de François Hollande. La rédactrice en chef de Voici, Marion Allembert, a expliqué à Louise Bernard les coulisses de ce scoop.
C'est extrêmement confidentiel et on protège énormément nos sources et on a appris que François Hollande avait une nouvelle conquête, qu'il avait craqué pour une jeune femme et donc on a fait en sorte d'avoir des photos. On ne sort jamais d'informations sur lesquelles on n'a pas été méticuleusement vérifié que de sources différentes. On a effectivement en plus des photos, on sent qu'ils sont proches, on sait depuis combien de temps ils sont ensemble, on connaît les débuts de cette histoire d'amour et depuis combien de temps ça dure et comment il se voit. Donc on est sûr à 100% de notre info.
Une info béton à 100% qui aurait été soufflée selon nos informations par une source issue du milieu politique. Et pourtant, quelques heures après l'apparition de l'article, Julie Gayet, la compagne de l'ancien président depuis 2014, a publié une photo d'elle avec François Hollande, tout sourire sur les réseaux sociaux, avec un commentaire « Nous sommes heureux ».
Disney garde le sourire en dépit du Covid.
Le groupe a dévoilé hier ses comptes prévisionnels pour la fin de l'année et a insisté sur un point. Son service de streaming Disney Plus a engrangé près de 74 millions d'abonnés depuis son lancement il y a un an. Un chiffre qui donne le tournis. Disney tablait l'an dernier sur 60 à 90 millions d'abonnés, mais d'ici 2024, ils ont donc beaucoup d'avance. Le service a en revanche encore un peu de retard sur Netflix et ses 195 millions d'abonnés, mais il n'est pour l'heure disponible que dans une vingtaine de pays. Parmi eux, l'Inde, qui lui apporte plus d'un quart de ses abonnés. L'Amérique du Sud lui ouvrira ses portes avant Noël.
Le focus média du jour, c'est pas une plante, c'est un documentaire complotiste qui a envahi Internet et les réseaux sociaux.
Oui, et c'est très sérieux, ça s'appelle Hold Up. C'est un film financé à hauteur de 200 000 euros par des internautes. Il est disponible à la location sur plusieurs plateformes de partage de vidéos depuis mercredi, après une campagne de teasing sur les réseaux sociaux le mois dernier. Et il prétend faire toute la lumière sur un vaste complot mondial entre Covid, 5G et nanoparticules. Un complot dont l'objectif serait d'anéantir une partie de la population. Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université Paris Diderot et collaborateur de l'Observatoire du conspirationnisme, a expliqué à Louise Bernard en quoi ce film posait problème.
Le problème avec ce documentaire, essentiellement, c'est qu'il véhicule un fatras de théories complotistes. C'est un documentaire anxiogène, à charge, et qui cible une sorte d'élite mondialiste qui chercherait à asservir, exploiter ou exterminer une partie de la population.
On en parlait hier dans le journal avec le rapport sur la lutte contre la désinformation. Ce sont à nouveau les réseaux sociaux qui sont pointés du doigt. Ils offrent une exposition démesurée à des propos marginaux. Face à l'ampleur prise par le phénomène, la plateforme de partage de vidéos Vimeo a retiré le documentaire, mais il reste accessible sur d'autres sites. Et selon Tristan Mendès France, il est crucial d'agir avant que les internautes n'aient accès à ces contenus.
C'est très difficile de lutter contre ce documentaire du moment qu'on y a été exposé. Si quelqu'un a été exposé à ce documentaire, je crains que ça va générer dans son esprit, s'il n'a pas de distance critique, une vraie confusion par rapport aux contraintes sanitaires dans lesquelles on est, va probablement éveiller des suspicions, pourquoi pas de l'animosité envers les autorités, le gouvernement. Je pense que la meilleure façon de lutter, c'est de prévenir ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore basculé, et de leur dire qu'effectivement ce documentaire est à la fois dangereux, plein de contre-vérités, et qu'il joue essentiellement plus sur l'affect que sur la raison.
Justement, quand on utilise la raison, on se rend rapidement compte que les théories mises en avant ne tiennent pas. Depuis mercredi, de nombreux internautes l'ont démontré et les médias leur ont emboîté le pas. Parmi eux, Libération ce matin ou encore Le Monde dès hier. À noter que parmi les intervenants du film, l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a tenu à s'en désolidariser. Il s'est dit scandalisé par les propos tenus et les théories défendues. Il a même demandé à ce que ces deux courtes interventions soient retirées du film.
Le groupe Prisma a lancé ces derniers jours deux nouveaux magazines consacrés à la télévision.
Le premier s'appelle 100% Programme TV. Il a été dévoilé la semaine dernière. C'est un quinzomadaire et comme son nom l'indique, il se concentre quasi exclusivement sur les grilles de programme avec des recommandations, un sujet de une et pas grand-chose d'autre. Son intérêt majeur est son prix, 1,20€, soit le moins cher de tous les magazines télé. Le deuxième s'appelle tout simplement Télé et sa particularité à lui, c'est d'offrir une vingtaine de pages de jeux et d'être proposé dans un format XXL, le plus grand du marché. C'est aussi un quinzomadaire qui sera disponible dès demain au prix d'1,70€. On a demandé à Thierry Masclot, rédacteur en chef du pôle TV Entertainment à Prisma Media, si ce n'était pas risqué de lancer de nouveaux magazines télé en cette période.
Ce marché en particulier est un marché sur lequel on peut innover pour s'adapter au comportement des lecteurs, puisque je rappelle aussi que la consommation de la télévision en France et la consommation de l'offre vidéo en général évolue avec de nouveaux acteurs, avec le développement des plateformes SVOD, avec l'extension des droits du replay, avec de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché comme Salto récemment. Et donc, tout cela fait qu'on peut s'adapter et innover.
Donald Trump veut la peau de Fox News.
Et il pense avoir trouvé le meilleur moyen de le faire, créer une chaîne info rivale, mais sur Internet. C'est ce qu'annonce le site américain Axios. Le futur ex-président n'a pas du tout apprécié le manque de soutien de Fox News depuis l'élection il y a 10 jours.
Pourquoi lancer cette chaîne sur Internet ?
Parce que ça coûte moins cher que de nouer des accords avec les opérateurs du câble aux États-Unis et qu'il pourrait lancer la chaîne beaucoup plus rapidement. Un modèle payant à quelques dollars par mois lui permettrait de marcher sur les plates-bandes de Fox Nation, le service de streaming de Fox News, qui coûte 6 dollars par mois.
Et puis l'Opéra de Paris innove pour contourner le confinement.
Malgré sa fermeture, l'Opéra proposera ce soir une représentation exceptionnelle de 3 des créations du spectacle du ballet de l'Opéra. Ça s'appelle « Créer aujourd'hui », une représentation qui sera proposée en direct sur Facebook. L'Opéra s'allie au réseau social pour cette retransmission qui sera bien plus qu'une simple captation. C'est ce qu'a expliqué à Louise Bernard, le directeur des partenariats médias en France et Europe du Sud pour Facebook, Edouard Brault.
L'idée de l'Opéra de Paris, c'est vraiment d'offrir une expérience différente. Nous ne sommes pas dans une captation audiovisuelle, cinématographique classique. Les spectateurs pourront dialoguer entre eux, poser des questions, interagir. Vraiment, l'objectif, c'est d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités et des spécificités de la plateforme Facebook pour offrir une expérience au plus près des artistes, au plus près de la scène, et puis également dans les coulisses avec de l'interaction, avec, je crois, le plus d'authenticité possible, ce qui permettra à un public qui n'a pas forcément l'occasion d'aller régulièrement à l'opéra ni de voir de la danse contemporaine, d'avoir une expérience nouvelle.
Et ça va coûter combien ?
Les places sont en vente depuis le début de la semaine au prix de 4,49€ sur la page Facebook de l'Opéra de Paris. Facebook a développé cette nouvelle fonctionnalité tout au long de l'été. Le réseau social espère multiplier ce type d'opération avec des artistes, des entreprises ou même des coachs sportifs pour les aider à générer des revenus en cette période compliquée.
Et on pourra le voir en direct tout ce week-end. Merci beaucoup Charles Decan. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.
Bon week-end.
Dans quelques instants, l'info média du jour. Comment traiter l'actualité avec humour ? Comment concilier rire et réflexion. On va en parler avec Sébastien Liebus, c'est pas le Figaro, c'est le Gorafi. Et Bertrand Husclat, c'est pas brut, c'est brute. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
C'est un plaisir de citer Pierre Desproges qui disait « L'homme donne à pleurer, mais prête à rire ». La formule résume parfaitement le travail des humoristes qui se nourrissent de l'actualité et particulièrement de celle lourde et triste de ces dernières semaines. Contexte dans lequel rire est nécessaire et même vital. Et c'est ce qu'on va faire avec nos deux invités de ce matin. Bonjour Sébastien Liebus.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur du site Gorafi, site et journal qui parodie l'info depuis 2012. Et vous venez de sortir un ouvrage, ça s'appelle « La méthode Gorafi pour redresser c'est la France, chez Flammarion. Avec nous également Bertrand Husclat, bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé Brout, pastiche de courtes vidéos qu'on peut voir en abondance sur les réseaux sociaux. Brout, c'est une référence aux médias bruts, évidemment. On va parler de vos dernières vidéos, Bertrand, inspirées de l'actualité. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez en faire une sur les conférences de presse du Premier ministre, comme celle d'hier soir, très suivie ?
Moi, je pense que je ne pourrais pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a des questions de production qui font que je ne peux pas être réactif du jour au lendemain ou dans la minute comme peut l'être le Gorafi. Donc moi, j'ai besoin d'un petit temps, d'une petite semaine en général pour faire de l'actualité plus un sujet de société. C'est comme ça que je vais traiter, moi, l'actualité.
Et vous, Sébastien, au Gorafi, vous ne parlez pas de la conférence de presse du Premier ministre d'hier ?
On l'a fait hier soir, très rapidement.
Ouais.
Je crois qu'on a fait une série de tweets, notamment Jean Castex qui menaçait de déchéance de nationalité tous ceux qui continuent de faire des jeux de mots sur son nom de famille.
Ah oui, non, le casse-tête de Jean Castex, on l'a entendu 50 000 fois.
Exactement.
Le premier jour, déjà, on en avait marre.
C'est
on
ça.
Est bien d'accord. Bertrand Husclat, l'actualité particulièrement grave, triste et anxiogène en ce moment. Comment fait-on pour travailler cette matière ?
C'est un peu compliqué. Alors, en général, on va essayer de trouver des personnages avec lesquels on peut avoir un petit peu d'empathie. Dernièrement, j'ai fait un personnage de libraire qui transformait sa librairie en épicerie. Des gens qu'on peut un peu comprendre. Et là, dernièrement aussi, c'était un autre sujet qui était un peu touchy, comme on dit, sur les caricatures, sur la liberté d'expression, où là, le but va être, plutôt que de traiter le sujet frontalement, ce qui peut offenser certaines personnes, de faire un méta-traitement du sujet. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on traite le sujet aujourd'hui, de faire des blagues là-dessus, ce qui permet à la fois de décaler, parce qu'on vit une actualité qui, vous venez de le dire, anxiogène, mais en même temps, il faut en parler.
On va l'entendre, le libraire, dans quelques instants. Je vous pose la même question, Sébastien Liebus. Comment on fait pour travailler cette matière particulièrement anxiogène ?
Eh bien, on prend beaucoup de substances hallucinogènes et on essaye d'oublier un petit peu la chose. Mais comme dit Bertrand, il s'agit d'appuyer sur le ressenti à un instant T et comment on ressent cette actualité. Et vous en faites généralement un titre de presse. Et c'est pour ça qu'on dit souvent c'est drôle parce que c'est vrai ou c'est triste parce que c'est vrai.
Ouais.
C'est que nos titres, on n'a pas besoin parfois d'inventer grand-chose. Il suffit juste de changer un mot ou d'enlever une phrase ou de l'inverser le sujet. Et ça fonctionne. En fait, on n'a pas besoin d'inventer. Plutôt que de dire, par exemple, Emmanuel Macron est un reptilien, nous, on va plutôt titrer « Les reptiliens démentent qu'Emmanuel Macron soit l'un des leurs ».
J'ai compris. J'aime bien. On va entendre un podcast, oui, parce que le Gorafi a lancé un podcast en mai dernier.
Oui.
La pandémie du Covid traitée par le Gorafi, c'était il y a 2 semaines.
Emmanuel Macron l'a annoncé il y a quelques jours, afin d'accélérer le combat contre le coronavirus, les études de médecine seront réduites à seulement 3 semaines. Je suis Mario de Buissière, vous écoutez le podcast du Gorafi. C'est parti pour un nouvel épisode. Qui parmi vous a toujours rêvé d'être docteur, de sauver des vies ? Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je m'imaginais en soigneuse miracle et sauveuse de pauvres gens, comme mon idole de l'époque, docteur Quinn, femme médecin. Eh bien aujourd'hui, ce rêve est à portée de main. Pouvoir devenir médecin en 3 semaines, quelle idée de génie pour sauver le monde. Avec cette mesure, plus personne ne pourra jamais se plaindre de manquer de main-d'œuvre dans les hôpitaux. Et pour ça, je dis merci, monsieur Macron, et merci les soignants.
Donc réduire les études de médecine à 3 semaines, ce qui est fantastique avec certaines de vos infos, c'est qu'on se dit d'accord, c'est excessif, mais c'est vraisemblable.
C'est ça, en fait. Nous, nos titres restent dans un réalisme absurde du quotidien,
ouais,
qui fait qu'on pourrait presque les reproduire en laboratoire. Si on devait vraiment prendre un article et le reproduire, voir s'il pouvait se réaliser, il pourrait se produire. Mais on reste quand même dans un territoire de satire.
Ouais.
Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'actualité, justement, les 4 dernières années qu'on a passé avec Donald Trump, c'est que le territoire de satire dans lequel nous, on évoluait, a été grignoté par l'actualité. Et on a été repoussé un peu plus loin. Donc, on doit à chaque fois se renouveler et trouver de nouveaux moyens d'être pertinent dans la blague, dans la vanne. Et ouais, c'est de plus en plus sportif, on va dire. Je crois qu'il y aura une catégorie au prochain JO, d'ailleurs, à ce niveau, parce que c'est très, très, très sportif.
Et je rebondis sur ce podcast sur les études de médecine. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, quand on voit qu'il faut faire 7 ans de médecine pour soigner les gens, c'était un livre qui était titré « Supprimez vos douleurs sur simple pression d'un doigt ». Ils en ont vendu des centaines de milliers, on dirait un titre du Gorafi. Alors là, je l'ai dit, vous sortez un livre chez Flammarion, ça s'appelle « La méthode Gorafi pour redresser la France ». On comprend bien que votre méthode est parodique. Vous avez une super idée pour les collèges et les lycées, c'est pimper les profs. Voici ce que vous proposez, Jean-Michel Blanquer. Pour qu'un jeune respecte un adulte, il faut qu'il l'admire. L'éducation nationale ne recrutera plus aucun prof ne possédant pas au moins 10 000 followers sur les réseaux. On croit rigoler, on n'est pas loin.
Non,
puisque les comédiens maintenant sont recrutés comme ça.
C'est
il faut avoir du followers.
Exactement. Mais c'est notre plan de... la méthode Gorafi pour redresser la France, c'était un peu le plan de relance. On l'avait d'abord proposé à Jean Castex, qui n'a pas été enthousiaste. Alors on est allé voir Flammarion.
Ouais.
Donc voilà. Mais à la base, ça devait être le plan de relance de Jean Castex. On avait travaillé pour lui pendant des mois et un peu déçu qu'il ne nous ait pas suivi là-dessus.
Que devient le libraire de Brout ? On a des nouvelles juste après ça. Vous restez avec nous, on parle du Gorafi et de Brout dans Culture Média. Les parodies sont à l'honneur.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle du traitement de l'actualité grave anxiogène en ce moment par la parodie. Nous sommes avec Sébastien Liebus du Gorafi, Bertrand Huskla de Brout, une sorte de parodie de Brut, mais pas seulement de tous ces petits formats vidéo. C'est juste que le nom vous est marré, j'imagine.
Oui,
mais
j'ai rajouté une lettre, ça suffisait.
Il y a plein d'autres formats comme ça. Vous parlez de sujets importants et graves comme la liberté d'expression, Bertrand Huskla dans Brout. C'est le thème d'une de vos dernières vidéos. Là, on voit vous camper un directeur de journal satirique. On pense évidemment à Charlie Hebdo, directeur de journal terrifié par le climat ambiant.
La liberté d'expression, c'est précieux. C'est pour ça qu'il faut la défendre, la préserver, en fermant sa gueule. Le métier de caricaturiste devient de plus en plus compliqué à exercer. Disons qu'on se prend beaucoup la tête pour la garder. Après, on est en guerre contre le terrorisme. Hein, et à la guerre, la meilleure défense, bah, c'est la fuite. On prend de plus en plus en compte les sensibilités de nos lecteurs et surtout celles de ceux qui nous lisent pas. Moi, je pense que l'autocensure a de beaux jours devant elle, du moment qu'on peut la déguiser en respect.
Brout. Brout, brout. Est-ce qu'il y a des sujets plus difficiles, plus délicats que d'autres à traiter, Bertrand Huskla ?
Celui-là, notamment, c'est très compliqué. En fait, cet épisode, je pense qu'il éclaire aussi un peu, moi, mon doute vis-à-vis de ces questions. Comment est-ce que je vais parler de ça ? Puisque fondamentalement, nous on est humoriste, donc la liberté d'expression, j'ai envie de dire, c'est notre fonds de commerce. Ouais. En même temps, moi, les caricatures offensantes ne me font pas rire, mais s'il faut placer un pion dans un camp pour défendre, j'ai l'impression que c'est mon rôle, ça fait partie des sujets obligés. Donc celui-là est particulièrement compliqué, puisqu'il fait partie des sujets obligés, parfois, en actualité.
Je pose la même question à Sébastien Liebus, qu'il y a des sujets plus difficiles que d'autres, et comment vous les traitez, ou est-ce que vous préférez ne pas les traiter ?
Non, moi je dis souvent, il n'y a pas de sujet interdit, il y a juste une question d'angle. C'est-à-dire qu'on peut aborder n'importe quel sujet, mais à partir du moment où vous avez le bon angle.
Ouais.
Et ça, j'en parle souvent avec nos auteurs. On s'interdit rien, on n'a pas de tabou. Mais je dis souvent, à partir du moment où vous arrivez avec un angle qui est complètement inattaquable, on peut écrire ce qu'on veut.
Là, en l'occurrence, cas d'espèce, la tuerie de Charlie Hebdo, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Comment vous l'avez traité ? Comment on peut le traiter ?
Alors, à l'époque, on a fait plusieurs sujets. On avait fait Monde de merde, tout simplement. On avait fait un article qui s'appelait Monde de merde. Et on avait fait un autre article qui était « Mahomet n'ose plus se dessiner lui-même ». Et on a fait ensuite, un peu plus tard, une espèce de ce que j'appelle un article un peu analogie, métaphore, qui disait « Des enfants scandalisés après la publication de caricatures du Père Noël ».
Pardon de rire. Pardon de rire. Juste un mot, parce que moi aussi j'ai fait un glissement, mais il y en a tellement, c'est les 5 ans, malheureusement, triste anniversaire du Bataclan. Pourquoi l'avoir fait tous les deux en parodiant un média ? Pourquoi ce prisme ? Pourquoi pas faire de l'humour comme un humoriste peut faire des blagues ? Pourquoi parodiez-vous un journal, vous les sites vidéo ?
Déjà, c'est parce que moi j'ai l'impression qu'en me mettant à la place d'une rédaction, c'est déjà mon endroit en tant qu'auteur en fait. Ce sont les questions que je me pose, qui sont je crois aussi des questions qui se posent dans les rédactions. L'humour aujourd'hui, il y a une espèce de petite prime, je dirais, à l'humour engagé maintenant. En ce moment, on vit une période qui est tellement bizarre depuis ce confinement, depuis ces attentats, où j'ai l'impression que les gens sont contents d'avoir une résonance d'un humour un peu éditorial, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler de choses générales. Donc en fait, en faisant ces parodies de médias, je me mets à la place des médias, du coup je dialogue avec eux, eux-mêmes me comprennent, me répondent, me partagent, m'invitent, merci beaucoup. Ouais. C'est pour ça.
Même question, Sébastien Liebus, pourquoi ce support d'un journal très célèbre, d'ailleurs le Figaro?
Moi, ça c'est parti d'un travail d'écriture, j'ai toujours écrit, et en fait ça s'est fait machinalement, et c'est quelque chose que je portais en moi depuis des années, et il y a eu un déclencheur en 2012, je ne saurais pas vous dire pourquoi à ce moment-là et pourquoi pas avant, mais ça s'est déclenché d'un coup, et j'ai commencé d'abord avec, sur Facebook, en faisant des petites statues, puis après sur Twitter, puis après un petit blog, ça a commencé à prendre de l'ampleur, mais j'ai toujours aimé cette manière d'écrire quelque chose de stupide, mais de manière très sérieuse. Et en fait, c'est ça qui fonctionne beaucoup avec le Gorafi, c'est que vous avez des titres qui sont profondément stupides, mais qui sont dits avec le côté très sérieux de la religion, et très pompeux, et les gens aiment beaucoup ce côté distanciation, et on sait que ce qu'on lit est faux, mais dans la manière dont on l'annonce, ça crée ce décalage.
Voilà, je reconnais bien là votre bravitude. Elle l'avait dit avec un grand sérieux, justement, c'est ça qui était si fort. Vous êtes tous les deux très réactifs. Exemple avec vous, Bertrand Huskla, votre avant-dernière vidéo sur Brout, vidéo qui revient sur la fermeture des librairies à cause du confinement, c'était il y a seulement 15 jours. À peine une semaine après, la vidéo était disponible, extrait.
En tant que libraire, c'est une période assez étrange. J'ai jamais autant vendu que depuis que j'en plus de bouquins. Quand j'ai vu que Carrefour restait ouvert en fermant le rayon livre, je me suis dit que j'avais pas de raison de fermer si j'ouvrais un rayon fruits et légumes. Dans la vie, il faut savoir s'adapter. Tout le reste, c'est de la littérature.
Ça va très vite, vous parodiez tous les deux des sites ou des vidéos d'infos. Est-ce que vous travaillez comme le font les journalistes? Est-ce qu'il y a une conf de rédaction? Combien vous êtes? D'abord vous, Brout, Bertrand Huskla.
Alors nous, en tout, on est trois auteurs. Donc on est une mini conf de journalistes avec un groupe WhatsApp qui reste allumé tout le temps pour s'envoyer des idées le week-end. Et on a une toute petite structure de production qui à chaque fois va au charbon et tire la langue quand on lui dit « Pour demain, il me faut un frigo dans une librairie ». Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Mais les idées, la conf de rédac, c'est le groupe WhatsApp.
Ouais,
elle est en temps réel 24 sur 24. Ouais. Et vous-même, Sébastien Liebus.
C'est un peu le même principe. On a assez
vous êtes combien?
On a une dizaine d'auteurs à peu près.
Ah.
Mais on fait une conf de rédac par mois. Ça dépend.
Par mois?
Par mois, oui. Ben, en fait, on a cet avantage de pouvoir faire des articles à la fois chauds et froids. C'est-à-dire que quand on a une actualité qui démarre très fort, comme par exemple l'élection de Biden, là, on va faire des conférences de rédaction beaucoup plus rapprochées. Mais en même temps, on se met de côté des articles froids qu'on peut publier n'importe quand. Et ça nous permet justement de pouvoir souffler de temps en temps, en se disant, tiens, là, demain, l'actualité a l'air d'être plutôt molle, donc on va pouvoir mettre des articles préparés un peu en avance, et qui vont parler de la vie de tous les jours, et qui ne sont pas forcément basés sur de l'actu immédiate. Et en fait, c'est un grand avantage, on peut justement chauffer.
Sébastien Liebus, combien d'infos par jour? Parce que 10 auteurs, c'est pas rien. Les Guignols, à la grande époque, ils en avaient 3, plus les gens qui écrivaient les sketchs, mais au maximum, ils étaient 5. Là, 10 auteurs...
Je dis 10 auteurs parce qu'en fait, c'est global, mais ils ne sont pas 10 en même temps. Des fois, il y en a 5, des fois, il y en a 7.
D'accord.
Mais disons qu'en globalité, il y en a 10 qui nous envoient leur idées.
Pour produire combien de vannes, de gags par jour?
On fait environ 5 articles par jour.
Comment vous gagnez de l'argent? C'est quoi votre modèle économique à tous les deux? Bertrand Huskla, Brout, c'est quoi? C'est Canal+ qui paye?
Ouais, exactement.
Jusqu'à quand?
Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, ça dure. Pour l'instant, je suis heureux là-bas. Et puis, c'est pour l'instant, c'est Canal+ qui a toujours soutenu le programme, qu'il a testé en digital seulement pendant 6 mois et qui maintenant l'a intégré dans l'émission Clic de Mouloud Achour. Donc, pour l'instant, le programme a l'air de leur plaire, fonctionne et les amuse.
Même surtout. Question à Sébastien Liebus, c'est quoi le modèle économique?
Alors,
du Gorafi?
Nous, on contrôle le marché de la drogue entre Gambetta et la rue Solier.
Ça, c'était la vanne que vous aviez préparée.
Exactement.
Mais en vérité, non, c'est quoi le modèle économique?
La publicité sur le site, essentiellement. Ouais. La vente de nos livres.
Ouais.
Et puis parfois, des petits billets sponsorisés avec des partenaires sur le site qui acceptent de jouer la carte de l'humour.
Ouais.
C'est un marché qui n'est pas super développé en France, mais de temps en temps, là, par exemple, on a fait un petit partenariat avec un film il y a quelques jours et voilà, les marques aiment bien se moquer d'elles-mêmes et sont prêtes à le faire chez nous.
Tiens, je vais citer ce chiffre parce que c'est pas très cher pour un livre richement illustré, comme on dit, 9,90. La méthode Gorafi pour redresser la France. Merci d'avoir été avec
nous,
Sébastien Liebus. Et merci beaucoup, Bertrand Huskla.
Merci.
Pour Brout. Merci d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant, on va parler du beau. Qu'est-ce que le beau? Très bonne question posée dans un documentaire présenté par Sandrine Dominguez sur Teva. Nous serons avec elle et avec la directrice de la chaîne, Catherine Schaeffer. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Sandrine Dominguez.
Bonjour Philippe.
Mais quelle voix, vous êtes présentatrice, spécialisée déco, mais pas seulement. Où vous trouvez-vous Sandrine?
Je me trouve en Haute-Savoie où je confine doucement en essayant de garder l'œil sur le beau qui m'entoure.
Voilà, j'imagine la maison dans laquelle vous êtes, parce que chaque fois que je vois dans une maison, je suis juste émerveillée. Je me dis, mais comment font les gens pour que ce soit si beau chez eux? Bonjour Catherine Schoeffer.
Bonjour Philippe.
Vous êtes patronne de chaîne et pas qu'un peu, vous dirigez plusieurs chaînes du groupe M6, Teva, également Paris Première. Sandrine Dominguez, vous venez nous parler d'un programme sur Teva, La quête du beau. C'est votre nouveau documentaire, c'est une rediff qui sera rediffusée samedi à 9h, donc c'est-à-dire demain sur la chaîne Teva. Et j'en profite d'être avec la boss, Catherine Schoeffer. C'est quoi l'idée de ce programme?
L'idée de ce programme, c'est que quand même Sandrine, depuis un quart de siècle, elle passe chaque semaine du temps à amener le beau dans l'intérieur des Français.
Ouais.
Mais donc, elle s'est demandé à un moment, mais qu'est-ce que le beau?
Sandrine Dominguez, vous présentez l'émission depuis chez vous, une maison atelier qui là aussi semble absolument magnifique. Il y a des objets partout. Et dans cette question, comme le dit Catherine Schoeffer, vous démarrez tout de suite avec cette question. Qu'est-ce que le beau? J'allais même dire, c'est un débat philosophique.
Qu'est-ce que c'est le beau aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le beau, c'est instinctif? Est-ce que le beau, ça se ressent? Est-ce que le beau, ça ne fait que se voir? Est-ce que le beau, c'est un chemin qui amène à l'idée du beau? Est-ce que le beau se compare au laid? Est-ce que le beau est un état d'esprit? Est-ce que le beau, c'est une émotion? Est-ce que le beau, c'est se ressentir aussi quand on a été enfant et que justement, simplement, on s'est dit, oh, c'est beau?
Ce sont des très très bonnes questions, je vous les pose. Qu'est-ce que le beau?
Alors, le beau, c'est... Je vais vous faire une réponse qui va peut-être pas vous surprendre. C'est l'amour du beau. C'est l'amour de l'amour. C'est ouais. L'amour de la vie. Le beau, c'est savoir poser son regard sur le quotidien sans jamais s'habituer à ce qui nous entoure. Je suis effectivement en montagne et entourée du beau, entourée par la nature, et je ne m'habitue pas. J'avais peur, en fait, qu'on devienne, dans une société très exclusivement tournée vers soi, un peu amorphe, ouais. En fait, et qu'on voit plus le beau. Et donc, je me suis posé cette question, effectivement, sans aller voir forcément ce qui était a priori beau.
Ouais.
Et c'est donc le chemin qui amène au beau qui m'a intéressé.
J'ai vu l'émission, il y a des endroits qui sont tellement splendides, mais c'est juste magnifique. Alors, il y a quand même votre chien Polo. C'est un bulldog qui ressemble un peu à rien. Il a le nez écrasé, pardon pour tous les gens qui ont des bulldogs chez eux, et qui bavent. Et vous posez cette question que je trouve très intéressante. Est-ce que Polo n'est pas si laid qu'il en devient beau? Et c'est vous qui le dites, hein?
Ouais. Bah, Oui, je vous remercie de souligner, je suis devenue un auteur grâce à vous.
Ouais.
Et c'est vrai que je me pose toujours cette question. Est-ce que ça a d'ailleurs été une question philosophique qui m'a passionné un débat avec un homme que j'aime beaucoup et sur est-ce que le beau se compare?
Ouais.
Eh bien non, le beau ce serait justement ce qui ne se compare pas et c'est surtout pas ce qui se compare au laid parce que chacun a cette notion du beau. Et ce que j'ai voulu raconter sans faire de morale de l'histoire, c'est est-ce que le beau justement c'est pas une forme de liberté extrême qui vous permet de regarder quelque chose qui pour les uns serait laid et qui pour vous devient beau?
Alors...
Et ça je trouve que la liberté que m'a laissé Catherine Schoeffer, qui est près de vous, en écrivant ce film, c'est ça aussi, c'est la beauté de la relation.
Alors, vous êtes allé au musée des arts décoratifs avec son directeur, la nef absolument sublime, et il y a une salle qui est consacrée à Roger Talon. Alors, je dis qui il est pour les plus jeunes, immense designer français, et vous posez cette question, est-ce que pour que le beau affleure, il faut que ce soit mis en scène? Pourquoi vous en parlez à cet instant-là? Parce que parmi tout le travail de Roger Talon, il a également créé le TGV et même les sièges de TGV. Et dans le musée des Arts Déco, on voit les gros fauteuils noirs à rayures blanches de la première classe qu'on ne remarque pas forcément quand on fait un Paris-Nantes. Et quand vous rentrez, vous, dans un wagon du TGV, Sandrine Dominguez, que vous dites « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Ou est-ce qu'il a fallu que vous soyez au musée des Arts Déco pour vous en rendre compte?
Non, quand je rentre dans un TGV, je me dis que ce qui est beau, c'est ces grandes ouvertures sur quand on passe la France comme ça, cette diversité des paysages qui sont si beaux. Je me dis, mais ça, c'est la beauté pure, c'est-à-dire
pas
de passer
fauteuils.
À toute vitesse devant tous ces paysages.
Pas les fauteuils.
Mais pas les fauteuils, c'est vrai. En revanche, quand vous avez la chance d'être en première classe, vous ressentez le beau dans l'esthétisme du confort. quand ouais. même. Donc oui, et quand il est mis en scène, parfois, il vous saute aux yeux. Il vous rappelle que vous avez été dans un endroit qui était proche du beau par le design.
Puisque vous parlez de paysage, à tous les gens que vous croisez, vous posez cette question du beau. Vous êtes allé en forêt avec Luc Jacquet. Luc Jacquet, c'est le réalisateur du film La Marche de l'Empereur. Et même si lui non plus n'arrive pas à définir précisément le beau, parmi tous vos intervenants, c'est peut-être lui qui en parle le mieux.
Je suis comme tous les artistes, j'ai besoin de faire ressortir quelque chose qui est en moi, que je ne comprends pas, qui me dépasse, et qui pourtant est là. Et cette chose qui est en moi, c'est ce besoin de partager le beau, ce truc qui me fait vibrer.
Ah ouais.
Pourquoi je suis devant un paysage et que j'ai une émotion considérable et que je ne peux pas la garder pour moi. Et à partir de là, je me suis posé cette question. Alors je me la pose de manière très différente, en interrogeant par exemple les peintures rupestres. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps. À partir de quand l'homme devient lui-même et à partir de quand il est capable de représenter une émotion? Je crois que chacun a cherché un véhicule, finalement, pour partager ce qu'il appelle le beau. Et moi, j'ai du mal, quand je fais un film, à dire « c'est beau parce que ». Mais par contre, je suis sûr que ça l'est ou que ça l'est pas. C'est-à-dire qu'un plan, pour moi, s'il n'est pas juste, s'il n'est pas beau, pour moi, il ne me convient pas. Mais physiquement, ça me rend mal à l'aise. Et si on me dit pourquoi, je suis hyper embarrassé.
Très belle phrase. Et Sandrine Dominguez, j'ai appris une couleur grâce à vous. Moi, je trouvais que c'était moche, le gris. Et puis un jour, j'ai appris le mot taupe. Taupe, c'est gris, mais c'est pas moche. Et alors vous, vous avez un truc encore mieux. Il y avait un truc gris qui était gris comme un gris moche. Et vous avez dit, c'est gris orage. Et je me dis, waouh, c'est beau, c'est gris orage.
Oui, alors je voudrais juste, si vous permettez, revenir sur ce qu'a dit Luc Jacquet.
D'un mot.
Moi, j'aime beaucoup aussi ce moment. Je pense que si il y a quelque chose peut-être à retenir dans ce film, si je peux me permettre, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il parle du beau, non pas comme quelque chose qu'on pourrait partager. Chacun a sa notion du beau. Si on allait ensemble se balader, vous me diriez, ben moi, je ressens ça beau, moi ça, et la troisième personne, etc. Mais c'est l'émotion. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du film avec mes chroniqueurs. Je dis, le beau, c'est d'abord une émotion. Et ça, c'est ce que j'ai aussi appris à apprendre. Sans mettre des mots, sans trop intellectualiser, là, on est parti dans un film qui est assez philosophique, c'est vrai, vous l'avez souligné.
Attendez, j'ai d'autres extraits, vous allez voir. Attendez la suite. Catherine Schoeffer, il y a du gris orage chez vous?
Non.
On sent, c'est plutôt taupe. Vous restez avec nous, Catherine Schoeffer et Sandrine Dominguez. On continue à parler de la quête du beau et aussi des programmes qui arrivent sur Téva et même sur Paris Première avec une espèce de bombe nocturne, vous allez voir.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Catherine Schoeffer dans ce studio, c'est la patronne de Téva, la chaîne qui diffuse demain à 9h La Quête du Beau. C'est un documentaire sur la décoration signé Sandrine Dominguez. Vous êtes retournée voir des personnages que vous aviez croisés, notamment il y a une quinzaine d'années, vous avez rencontré Éric Brun, qui est un designer aveugle, qui a une manière bien à lui, Sandrine, de percevoir l'espace, alors qu'évidemment, il n'a plus l'usage de ses yeux. Comment travaille-t-il ?
Bah, il travaille sur tous les autres sens, et puis il a inventé un sixième sens, justement, qui est l'harmonisation des quatre sens, pour arriver, lui, à trouver... justement, à ressentir tout ce qui est l'espace, en fait.
Voilà, puis il a une manière bien à lui de percevoir l'espace et qu'il claque des doigts comme ça. Et en écoutant les résonances, il peut deviner si la pièce est grande, moins grande, comment est l'alentour, le pourtour. Vous montrez une séquence ancienne, c'est même encore du 4 tiers, pas du 16/9. Éric Brun refait l'appartement d'un jeune couple, Anaïs et Théo. Vous vous souvenez, vous savez qui c'est ou pas?
Alors, mais je me demande tout le temps qui c'est.
Eh bien, vous savez quoi? Je l'ai reconnu, c'est Anaïs Baydemir qui présente désormais la météo sur France 2.
Eh bien, voilà.
Eh bien, vous lui avez refait son appart. Et puis, il y a un autre détail amusant. Chaque fois, Sandrine Dominguez, que quelqu'un a fini de parler, vous lui dites « Ah, mais c'est joli ce que vous dites, Florilège. »
Moi, j'aime bien tout ce que vous dites.
Ah, c'est joli ce que vous dites.
Ouais, c'est émouvant ce que vous venez de dire pour un directeur de musée, je trouve.
Bah, écoutez...
Ouais, super émouvant.
Et ben, merci beaucoup pour ce joli
merci,
moment.
Merci, Sandrine.
Quand tu découvres quelque chose avec tes mains, c'est extraordinaire. Ouais. Parce que tu es en train de le composer dans ta tête, tu es en train de le découvrir, c'est petit à petit.
Merci, Fanny, d'être venue...
J'étais très contente, très
heureuse. Écouter avec nous sur le beau. Et moi, je te trouve très belle.
C'est pour ce que vous dites. Catherine Schoeffer, l'émission, c'est un one-shot. Est-ce qu'elle pourrait devenir régulière?
Non, là, c'était un documentaire. Donc, justement, ce n'est pas une émission. On est un peu passé à autre chose, Sandrine et nous, parce que, bon, bah, après 23 ans, c'est une formidable aventure. Mais voilà, on avait aussi envie de passer à autre chose. Donc là, c'est un documentaire. Il y aura peut-être d'autres documentaires, mais pas une déclinaison.
Alors, justement, autre chose, c'est quoi, Catherine Schoeffer? Vous dirigez Téva également, Paris Première. D'abord, quoi de neuf sur Téva? Qu'est-ce qui va arriver?
Téva fait sa révolution.
Ah oui.
Alors, Teva reste toujours la chaîne des femmes, ça, ouais. Ça ne change pas. Mais en revanche, les femmes changent, la société change, donc Teva s'adapte. Et Teva, ça va être plus de piquant, d'où une émission piquante,
ouais.
Plus d'engagement, plus de, d'humour. Et tout ça, c'est cette nouvelle rentrée.
Alors la piquante, engagement, humour et des femmes, c'est une émission d'humoriste présentée par Nicole Ferroni. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Je peux le dire, ce qu'elle a de particulier, il n'y a que des femmes autour de Nicole Ferroni. En quoi ça change la donne ?
Alors il n'y a que des femmes, ce n'est pas la première émission qui avait que des femmes. En revanche, c'est que des femmes humoristes.
C'est ça.
Et elles vont retransformer l'actualité, la chahuté, avec chacune une chronique. Donc, dans la rubrique d'avant, vous parliez justement de la parodie, de l'humour. Je pense qu'aujourd'hui, faire de l'humour avec du fond, c'est vraiment ce dont les gens ont besoin.
Ma question était, pourquoi seulement des femmes ? Est-ce que les filles peuvent s'autoriser à dire des choses que les garçons ne peuvent plus ? Je pense à Blanche Gardin, qui est maintenant le personnage comique qui va le plus loin dans les propos. Elle dit des choses qu'un homme ne pourrait pas dire.
Oui, je pense que les filles, elles ont une espèce de liberté et qui existait déjà, mais retrouvée, et qu'elles osent plus.
Et qu'elles ne prenaient pas, malheureusement. Le casting, il y a Constance, Élodie Poux, Christine Bérou, j'en oublie beaucoup. Constance fait le happening. On se souvient d'elle parce qu'elle avait fini une chronique seins nus chez nos confrères de France Inter. Comment elle va faire plus ? Comment elle va faire mieux ?
Écoutez, pour l'instant, alors, les chroniqueuses, elles bougent, etc. Pour, donc, Constance, elle va pas forcément revenir à chaque fois. D'ailleurs,
d'accord.
Dans la dernière émission, elle n'y est pas à chaque fois. On a aussi Laura Domange,
ouais,
qui revient. Et donc, c'était un mélange de chroniques, de magnéto, de transformation, de billets d'humeur.
Plein d'autres nouvelles émissions qui arrivent. Batch Cooking, présenté par Justine Pilouzeau. C'est dimanche à 10h30, donc ça démarre après-demain. C'est quoi le batch cooking ?
Alors le batch cooking, c'est très simple. Ça vous libère de la charge mentale. En gros, vous cuisinez en 2 heures tous les dimanches et vous avez tous les repas de la semaine.
Oui, mais après, c'est pas frais.
Mais si c'est frais, il suffit de le conserver comme il faut. On vous donne les bonnes indications et chaque soir, 5-10 minutes, hop, le dîner est prêt.
Hop, le dîner, vous le faites chez vous ou pas ?
Bien sûr.
Ah, bien sûr. Extravagante. Alors là, c'est dingue parce que c'est une double info. Il y a d'abord le retour des émissions nocturnes sur Paris Première, à l'horaire du journal du Hard. On pense évidemment à Paris Dernière, créée par Thierry Ardisson. Et puis le retour de la productrice Catherine Barma, qui était en froid avec Laurent Ruquier depuis l'arrêt d'On n'est pas couché. Elle revient, Catherine Barma, elle produit sur Paris Première le show Extravagante. Ça sera samedi 28 novembre, 23h30. C'est quoi l'idée ?
L'idée, c'est de découvrir un univers absolument incroyable, d'ailleurs qu'on peut malheureusement en ce moment pas trop découvrir, qui sont des créatures de cabaret parisien. Ce sont des créatures qui sont avant tout des artistes musicaux, comédiens.
Dites les choses, des créatures, c'est quoi ? C'est, elles revisitent Michou. C'est des garçons,
oui,
habillés en filles.
C'est des garçons habillés en filles, mais c'est pas Michou, parce que d'abord, on est en 2020.
J'ai dit ça, revisite.
Voilà. Et elles sont extraordinaires parce qu'elles ont chacune leur personnalité et elles vont cuisiner un invité à leur manière.
Ah, j'ai cru qu'elles allaient faire du batch cooking. Merci beaucoup, Catherine Schoeffer, d'avoir été avec nous. Merci, Sandrine Dominguez. Je rappelle La Quête du Beau, votre nouveau doc. C'est rediffusé demain, samedi, à 9h, sur Teva. Culture Média continue, évidemment. Pardon, je vous ai chevauché après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva pour son zapping du lendemain, avec un excellent documentaire sur le rap marseillais, et Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Il est revenu sur la conférence de presse de Jean Castex. Ensuite, Guy Savoy, le chef 3 étoiles, sera notre invité. Il va nous parler des influences culturelles, de la situation actuelle du milieu de la restauration. Et c'est terrible, justement, après ce qu'ils ont appris hier, une sorte de douche froide prononcée par le Premier ministre. Au menu également, ces 3 recettes emblématiques, ce sera avec Laurent Mariotte. Et puis, dans le second indispensable, une formidable série sur un monde carnassier, celui de la finance. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.